franceinter.fr. Le 7-9, Marc Fauvel sur France Inter.
Bonjour Laurent Fabius.
Bonjour.
Donald Trump élu à la Maison Blanche, c'est une nouvelle crise qui s'ouvre ce matin.
Je n'ai pas certain. J'ai pas, bien sûr, compte tenu des fonctions que j'exerce maintenant à la tête du Conseil constitutionnel, à m'ingérer dans la politique. Mais c'est vrai que, à la fois, c'est une surprise pour beaucoup de monde et c'est une donnée extrêmement importante compte tenu de l'importance des États-Unis. Et dans le livre là que je viens de publier, j'examine. Je ne savais pas encore, bien sûr, que Trump allait être élu, mais j'examine toute une série de domaines, la question du climat, la question syrienne, la question iranienne, la question européenne, et où les décisions que va prendre le nouveau président américain vont avoir de l'influence.
On va y revenir longuement. Est-ce qu'un candidat excessif peut faire un bon président ?
Mais le paradoxe de ce que j'ai compris de la campagne américaine, c'est que l'incompétence politique qui était reprochée à Donald Trump, à la fois par ses adversaires et par ses concurrents républicains, a été un de ses atouts principaux. Parce qu'il y a eu un tel rejet, pas seulement du gouvernement en place là-bas, mais de la classe politique, que Trump s'est prévalu du fait qu'il n'avait aucune expérience. Donc les choses se retournent.
La même chose peut arriver en France ?
Je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Vous savez que le Conseil constitutionnel organise les élections présidentielles et en plus déclare le vainqueur. Donc je ne veux pas Mais ce qui est vrai, en revanche, c'est que ce qui s'est passé aux États-Unis et la montée de ce qu'on appelle le populisme, pour être rapide, ce n'est pas une affaire purement exotique. Regardez objectivement ce qui se passe, y compris en Europe, avec un certain nombre de régimes. On parle de la Hongrie, on parle de la Pologne. Regardez ce qui s'est passé aux Philippines. Donc, il ne faut pas simplement avoir le nez collé sur les sondages pour se dire « tiens, ils se sont trompés ». Il faut quand même réfléchir aux causes profondes. Et les causes profondes, bon, on les a tous à l'esprit. C'est d'abord le fait que les gens sont déboussolés partout dans le monde à cause des changements, pas seulement de la mondialisation, mais aussi des changements psychologiques, des changements familiaux, des changements économiques. Et puis, il y a le fait que on a de plus en plus d'informations sur tout ce qui se passe dans le monde, mais les gens ont l'impression d'avoir de moins en moins de pouvoir. Et puis, la société médiatico-politique elle-même a une certaine responsabilité, parce que désormais, ce qui compte, c'est la télé-réalité, c'est-à-dire la force avec laquelle vous assénez un coup de poing. Mais la question de savoir si la position prise a un rapport avec la vérité et l'efficacité n'existe plus. Et puis, il y a des éléments propres aux différents pays. On l'a vu en Grande-Bretagne avec le Brexit, on le voit aujourd'hui aux États-Unis. Donc c'est très compliqué.
Et en France, il y a une dizaine d'années avec le non-référendum
Il y avait eu
dont
une alerte.
Dont vous étiez l'un des partisans,
Il y avait eu une alerte, je peux parler de ça, c'est le passé. Mais il y avait une espèce d'agglomération qui était assez hétérogène, il faut le reconnaître. Vous aviez à la fois des gens, puisqu'il y avait un non au référendum sur la Constitution européenne, vous rappelez. Il y avait à la fois des gens qui étaient hostiles à l'Europe et des gens qui, comme moi, était très favorable à l'Europe et qui estimait que le texte qui était proposé ne permettait pas de répondre aux grands défis. J'y reviens d'ailleurs dans mon livre.
Dans ce livre qui s'appelle 37 Quai d'Orsay, qui fait donc le récit des 4 années que vous avez passées à diriger le ministère des Affaires étrangères. Laurent Fabius, avec Donald Trump, c'est aussi l'arrivée d'un climato-sceptique à la Maison-Blanche. Il veut relancer le charbon. Il explique que le réchauffement climatique est une invention des Chinois pour nuire à l'Amérique. Et il a fait campagne en affirmant qu'il allait annuler l'accord de Paris sur le climat, accord dont vous avez été l'artisan. Que se passerait-il ?
Oui, ça c'est une énorme question. Pourquoi ? On ne sait pas ce que M. Trump va faire dans différents domaines, mais je dirais qu'il y a des domaines où ce qu'il va décider, et qui est important, ne concerne que les États-Unis. Par exemple, vous savez qu'il veut revenir sur ce qu'on appelle l'Obamacare. Bon, je ne porte pas de jugement là-dessus, mais ça concerne les Américains. Tandis que l'affaire climatique, ça ne concerne pas du tout uniquement les Américains, ça concerne le monde. Parce que les Américains sont le deuxième émetteur de gaz à effet de serre.
Derrière les Chinois qui avaient lié leur ratification
bien
à celle
sûr,
des États-Unis.
Bien sûr, quand j'ai négocié cet accord mondial, je me rappelle en particulier, je raconte dans le livre que 3 ou 4 jours avant la clôture, j'ai réuni dans mon bureau à la fois John Kerry, qui est le ministre américain bien connu, et puis le négociateur chinois, et ligne à ligne, nous avons regardé ensemble ce qui était possible de faire. Après, j'ai pris mes propres responsabilités en proposant le texte final. Il est évident que si les États-Unis, quel que soit l'aspect juridique, disaient « nous, on ne respecte plus rien », ça aurait des incidences massives, parce que une fois que vous émettez dans l'air, si je puis dire, les gaz à effet de serre, ils y restent parfois 10 000 ans. Et puis d'autres pays risqueraient de dire, ah bon, ben alors si les États-Unis ne font rien, nous-mêmes. Donc ce serait extrêmement grave pour le monde, parce que c'est le monde qui est en jeu. Alors juridiquement...
Est-ce qu'il en a le droit? Est-ce qu'il en a le pouvoir? Oui. Ségolène Royal hier disait non, il faut au moins 3 ans pour revenir sur une signature.
Alors la réalité, et quand on regarde attentivement les textes, c'est l'article 28 du texte que j'ai négocié et présidé, qui prévoit que un État qui a signé, et les États-Unis ont signé par le président Obama, peut 3 ans après l'entrée en application du texte, alors le texte est applicable, est entré en application au début novembre de cette année, peut 3 ans après, c'est-à-dire vous prenez 2016 plus 3, ça fait 2019, dénoncer l'accord, et à ce moment-là, au bout d'un an, la dénonciation prend effet. Donc sur le plan juridique, à la question que vous posez, la réponse est oui, et ça peut être fait avec effet en 2020. Mais, au-delà de l'aspect juridique, ce qui compte, c'est l'aspect pratique, l'aspect concret.
Il peut ne pas l'appliquer dès demain,
c'est ça,
enfin,
le problème.
Dès janvier prochain.
Prenons un exemple. Si, aux États-Unis, on relance l'exploitation du charbon, le charbon est ce qu'il y a de plus polluant en termes de CO2. Si il autorise l'oléoduc qu'on appelle Keystone, entre l'Alberta canadien et puis les États-Unis, ça peut avoir des conséquences ravageuses. Si il dit j'avais prévu des financements, enfin plutôt les États-Unis avaient prévu des financements pour les énergies renouvelables, mais ces financements sont annulés, vous voyez ce que ça donne comme conséquence.
Ce serait la fin de l'accord.
Non, parce que le dérèglement climatique, il est là, et pas pour dans 50 ans, pour aujourd'hui, avec des conséquences absolument dramatiques, aussi bien sur l'aspect proprement climatique, que sur la nourriture, que sur la santé, que sur les migrations, que sur la paix ou la guerre. C'est ça l'enjeu de ce que nous avons signé à Paris. Et donc, il y a heureusement des entreprises qui ont compris que maintenant, il fallait passer aux renouvelables et abandonner la filière fossile et carbone. Il y a beaucoup de communes à travers le monde qui ont fait ce choix en matière de transport, en matière de déchets. Il y a des grandes voix, je pense au pape, je pense à d'autres, qui font comprendre ça. Il y a des ONG, il y a des peuples entiers, y compris le peuple américain. Une étude d'opinion montre que la majorité du peuple américain est pour que maintenant on passe à des énergies décarbonées. Donc, bien sûr, il y a la question juridique. Et je vous ai donné une réponse précise. Mais au-delà, il faut absolument que cette prise de conscience que le dérèglement climatique est là, quelles que soient les paroles qui ont été prononcées pendant la campagne, fasse son effet.
Laurent Fabius, vous abordez longuement dans ce livre la question de la Syrie. On va en parler, mais au détour de ce dossier syrien, vous parlez aussi de celle qui dirigeait la diplomatie américaine à l'époque, une certaine Hillary Clinton, déterminée, précise, professionnelle.
Oui.
Qu'est-ce qui lui a manqué pour décrocher l'élection ?
Alors moi j'ai travaillé avec Hillary Clinton à la fin de son mandat de ministre des Affaires étrangères et au début de mon propre mandat, et tout le monde le reconnaît, d'ailleurs je l'ai trouvée très professionnelle, très compétente, une femme qui a de l'autorité, et qui, quand on la connaît bien sur le plan personnel, est une femme qui inspire le respect. Mais je crois que ce qui s'est passé, c'est que elle a incarné, d'une certaine manière, ce qu'on appelle l'establishment, c'est-à-dire le pouvoir établi, parce que c'est une femme qui, depuis longtemps, a des responsabilités, qui a été la première dame, qui est, je dirais, dans les médias, en tant que politique, depuis très longtemps. Et c'est ça qui a été battu aux États-Unis, même si elle a, par leur système, emporté une majorité de voix. Oui, mais ce qui compte, c'est la façon dont c'est organisé. Et je crois que c'est ça qui a beaucoup joué à son détriment et au détriment du parti qu'elle a représenté.
Vous racontez, Laurent Fabius, comment les États-Unis ont lâché la France alors que les deux pays et la Grande-Bretagne également s'apprêtaient à frapper le régime de Damas à l'été 2013 alors qu'il venait d'utiliser des armes chimiques contre son peuple. Vous avez la dent assez dure contre Barack Obama. Sa responsabilité dans l'évolution du drame syrien ne doit pas être sous-estimé.
J'ai beaucoup d'admiration pour Barack Obama, qui est une personnalité remarquable, un homme très intelligent, qui a fait beaucoup de choses pour les États-Unis. Bon. Mais sur et on parlait du climat qui a été extrêmement positif pour l'accord pour le climat. Je n'aurais jamais pu nouer cet accord s'il n'y avait pas eu le président Xi Jinping d'une part en Chine et Barack Obama.
Mais pas sur la Syrie, hein.
Sur la Syrie, nous avons eu des divergences et notamment, vous y faites allusion, sur à la fin du mois d'août 2013. On se rappelle peut-être que le président Obama avait pris un engagement de dire si Bachar utilise ses armes chimiques, à ce moment-là, ce serait une ligne rouge et on devra réagir. Nous avions préparé toute une série de réactions contre Bachar pour l'obliger à négocier. Et puis au dernier moment, le président Obama a dit non.
Pourquoi ?
Les arguments qu'il développe, parce qu'il s'est expliqué ensuite longuement là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de critiques qui sont faites à cet endroit, c'est de dire premièrement... frapper Damas, oui, mais qu'est-ce qui serait arrivé ? Et donc, c'est l'idée, mais il y aurait peut-être eu des terroristes qui auraient pris la place de Bachar. À ceci près que à l'époque, Daesh n'avait pas du tout la même puissance qu'aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est sa philosophie, le président Obama considère que une fois employé la force quasiment nulle part. Et c'est une des contradictions. Bien sûr, nous ne sommes pas pour l'emploi systématique de la force, mais comment arriver à faire négocier quelqu'un qui ne veut pas négocier s'il n'y a pas une certaine menace ? Et donc, ce n'est pas la question France-États-Unis, mais je montre dans mon livre comment c'est un moment où M. Poutine, qui est un homme extrêmement intelligent et qui a le sens tactique et qui joue aux échecs, s'est dit « Ah bon, là, il y a un vide » et il a retourné la situation à son profit. Et je dis même, c'est un peu osé, que ce qui s'est passé en Ukraine et en Crimée et la modification des rapports de force au bénéfice des Russes est probablement née ce jour-là.
Ça reste le regret de votre passage au Quai d'Orsay, le dossier syrien, et cette non-intervention des Américains qui a abouti au pourrissement de la situation qu'on voit aujourd'hui.
Moi, je suis vraiment bouleversé, comme chacun, par ce qui se passe en Syrie, mais en politique internationale, ça, souvent, on a du mal à faire croire. Vous n'êtes pas tout seul, par définition.
La France ne pouvait pas y aller toute seule.
Ah, mais non, il n'y a pas question. L'affaire était préparée pour qu'on le fasse à plusieurs. Mais c'est pas parce que vous avez raison dans votre position que vous faites prévaloir cette position. Parce que par définition, vous êtes nombreux. Mais la France est un pays indépendant qui doit le rester, qui a des objectifs de paix, de sécurité, de préservation de la planète, de reconstruction européenne. Et je montre dans ce livre comment, au cours de ces quatre années, nous avons avancé sur certains points et sur d'autres, nous n'avons pas pu avancer.
Merci Laurent Fabius. Le livre s'appelle 37 Quai d'Orsay, diplomatie française de 2012 à 2016, publié chez Plomb. Merci d'avoir été ce matin l'invité de France Inter. Dans une poignée de secondes, la revue de presse et Patrick Cohen aux États-Unis pour la suite de ce 7-9.
Merci à vous.